Mémoire vive, présentée par Ève Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. J'ai entrepris de rassembler et retranscrire les traces immatérielles de la vie de mon grand-père, Sroul, dont je ne connaissais presque rien, parti en déportation avec le convoi numéro 7 en 1942. Date après date et leurs anniversaires, lieu après lieu et leurs traces invisibles, j'ai photographié à la chambre et enregistré ce qui m'était donné à voir et à entendre. Estelle Buisson, bonjour. C'est ainsi que vous m'avez présenté votre travail quand nous avons préparé cette émission. C'est un travail personnel puisque le travail qui vous fait vivre, c'est l'architecture. Vous êtes architecte et enseignante en école d'architecture. 7 à 8 planches de votre travail, de votre enquête photographique, seront montrées dans le numéro spécial de Tenoa qui paraîtra à l'occasion de Yom HaShoah fin avril. Tenoa que nos auditeurs connaissent sûrement, c'est le magazine du mouvement juif libéral dont le rabbin est Delphine Horwiller. Bonjour Delphine Horwiller.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'aimerais d'abord, Estelle Buisson, que vous nous expliquiez en quoi consiste votre démarche, comment elle est née. Ensuite, Delphine Horwiller, vous nous direz pourquoi vous avez tenu à soutenir ce projet. Et ensuite, on verra comment cette démarche peut être comparée à d'autres d'enfants, de petits-enfants, en fait. En quoi elle est caractéristique de la troisième génération. Alors, commençons par votre projet, qui s'intitule « Sur les pas » de Sroul Kroger.
Alors, d'abord, je connaissais très peu de choses de mon grand-père parce qu'il avait été banni, en fait, quasi de ma famille. Et j'avais très, très peu d'informations. La seule chose que je connaissais réellement, c'était le parcours héroïque de ma grand-mère qui, avec ma mère, s'était échappée du Veldiv ou de la rue Nélaton. Et de mon grand-père, par contre, c'était celui qui était resté, dans le Veldiv. Alors... il était considéré dépressif, il était considéré comme celui qui ne s'était pas battu. Et donc ça me faisait en fait assez mal de le voir à la fois oublié de l'histoire et de ma famille surtout, puisqu'en fait il n'y avait pas du tout de mémoire vivante qui était donnée, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas. Par exemple, je suis née en octobre, lui également, et nous aurions pu en tout cas évoquer le fait que nous aurions pu avoir un anniversaire ensemble. Ma mère l'avait vraiment enfouie au fin fond d'elle-même. Et elle me disait qu'elle était toujours très en contact avec lui, maintenant que nous avons une discussion sur lui, au moment de Yom Kippour. Elle allait à la synagogue, le seul moment finalement où elle avait un lien avec la synagogue dans laquelle elle ne m'a jamais conduite. Je ne suis jamais allée avec elle à Yom Kippour, par exemple. Donc c'était une sorte de double rupture, à la fois avec le grand-père et puis avec, je ne sais même pas comment l'appeler, la religion juive, avec qu'est-ce que c'est, voilà, tout ce parcours qui m'a amené en fait à il n'y a pas si longtemps, à interroger là-dessus Delphine Horwiller, voilà.
Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, ce travail est en quelque sorte le mémorial de mon grand-père, un mémorial intérieur.
Oui, voilà. Alors en fait, il fallait que je fabrique en moi des images pour justement avoir un lien avec cette mémoire qui était quasi morte et détruite. Et donc, je suis allée chercher les fils les uns après les autres pour recoudre. Le thème du textile est quand même assez important, notamment on va parler... sur la question de la sépulture, mais il fallait que je recoue tout ça. Et donc moi, comme je suis architecte et je pratique la photographie d'architecture, je me suis dit que voilà, au travers de ma pratique, une de mes pratiques, je pouvais poser un pied dans le paysage et, à défaut de généalogie, reconstruire avec la géographie justement ces fils coupés, ces racines tronçonnées, ces branches maltraitées. D'ailleurs, donc il y a tout un thème qui nous fait tous rire, qui est celui du Buisson. Je m'appelle Estelle Buisson et notamment mon grand-père a été déporté. La dernière demeure qu'il a eue, sa demeure individuelle, c'est la rue du Buisson Saint-Louis. Et donc depuis, il y a vraiment un travail sur justement ces ramifications que j'essaye de retrouver.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le dispositif que vous avez retenu? J'emploie le mot dispositif à dessein parce que vous employez des termes techniques, on y reviendra.
Alors, dispositif, oui, ça me convient très bien. En fait, j'avais tellement peur de partir à sa suite. D'abord parce que c'est un personnage tabou dans ma famille. Il fallait d'abord que je casse les verrous que ma mère avait... Enfin, ma mère, pas que ma mère, ma grand-mère, mon oncle. C'était tous enfermés dans un silence. Et donc, ce dispositif était vraiment une sorte de programme architectural avec des lieux, des délais, des dates, des rendez-vous, entre guillemets, qui m'ont forcé donc justement à ne pas démissionner, parce que j'étais vraiment prête à le faire. Et grâce notamment à la chambre, moi j'avais, mais le son j'avais pas, et grâce à un ami qui m'a prêté sa perche, qui m'a prêté sa perche, j'ai pu enregistrer les lieux.
Quand vous parlez des lieux, c'est les lieux.
Alors, rue du Buisson-Saint-Louis, par exemple. Oui, rue du Buisson-Saint-Louis, la rue Nélaton pour le Veldive, Drancy pour la cité de la Muette, Drancy-le-Bourget pour la gare depuis laquelle il est parti. Donc, en fait, c'était aussi une quête de documentation, c'est-à-dire que j'ai été aidée. Alors, j'ai pu faire pas mal d'erreurs historiques, évidemment, mais à un moment donné, la date me rattrapait et donc j'étais sur les lieux.
J'étais sur les lieux aux dates plus ou moins anniversaires.
Ah non, carrément anniversaire. Ah oui, d'accord. Oui. Puis j'ai essayé de me rapprocher.
Donc 70 ans après.
Voilà, pour ce qui est en tout cas du départ. Et il me fallait absolument vivre de façon presque catharsique. Enfin, en théâtre, on parle de catharsis, hein, c'est ça. Oui. Voilà, une forme de catharsis où j'étais à l'intérieur, où je vivais, et j'étais complètement en train de vivre physiquement. Et c'est pour ça que je posais un pied pendant de longues minutes, puisqu'une vue, c'est à peu près une heure.
Et de cette démarche, vous avez fait sept cahiers, c'est ça ?
Alors oui, il y a des cahiers, des thématiques que je pourrais ressortir. Trois avant Auschwitz et ensuite trois après Auschwitz en quelque sorte. Et Auschwitz étant ce cahier blanc.
Le cahier numéro 4, donc
oui,
cahier blanc.
Oui, enfin au cahier de la page pliée parce qu'il y a le avant et le après. C'est-à-dire, voilà, avant et voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais avant.
Donc, sept cahiers selon un ordre chronologique inversé, puisque la première image du premier cahier, vous me l'avez montré, c'est celle du mémorial de la Shoah, que vous appelez sa sépulture, en réalité, qui est aussi le moment déclic un peu de votre projet, jusqu'à, en fait, la dernière, c'est le Vercors, la dernière image du dernier cahier, du numéro 7.
Oui. Oui, alors voilà, j'ai en fait, d'abord c'est ma rencontre avec le nom au mémorial de la Shoah qui a été plus qu'un déclic, un choc, où je suis tombée sur son nom yiddish, Shrul Ruger, alors que je connaissais Israël, et quand bien même Israël, je ne me rappelais quasiment plus de son prénom. Et bon, après il y a eu un temps off, un temps un petit peu de gestation, mais aussi de prise de conscience, et ensuite il y a eu ce démarrage où je me dis mais les dates avancent, qu'est-ce que je vais faire avec ça, c'est trop lourd pour moi, il faut absolument que je le sorte et que je le rende visible. Donc c'est un mémorial intérieur d'abord avant d'être partagé, et donc je suis partie jusqu'à Auschwitz, et j'ai suivi le trajet du convoi, et je l'ai attendu symboliquement sur la rampe, la Judenrampe, où là je lui ai posé tout un tas de questions, et là réellement c'était la première fois que je m'adressais à lui, un peu cachée de tous, puisqu'il n'y avait personne. J'étais très très loin. J'étais partie toute seule d'ailleurs. Et donc après, j'ai fait le chemin inverse, hein, c'est-à-dire de me rapprocher de ses origines en Pologne. Il venait de Ruda, une ville complètement perdue.
Où vous êtes allée ?
Où je suis allée également.
Et où vous avez pris à chaque fois ?
Voilà, une photo par lieu. Enfin, en tout cas, j'en ai sélectionné une photo par lieu. J'ai essayé de sélectionner. Ce qui pose la question de la photo. Qu'est-ce qu'on choisit pour exprimer un lieu ?
Justement, par rapport à la photographie, je vous ai demandé, quand on a préparé l'émission, qu'est-ce que ça voulait dire photographier à la chambre, parce que c'est aussi un terme technique. Et on se demande pourquoi vous avez emporté cet outil assez encombrant, pas très adapté. Vous m'avez dit, bon, c'est un peu comme une attelle, en fait. Pourquoi vous aviez besoin de cet instrument technique, en fait.
J'avais d'abord, parce que je l'ai déjà utilisé, parce qu'il est très physique, il est gros, j'avais l'impression d'être accompagnée, mais surtout je pouvais me cacher dedans, littéralement mettre ma tête à l'intérieur, et en plus bon, donc c'est un jeu de miroir.
C'est une boîte noire avec un soufflet, c'est ça?
Oui, avec
plein, on peut décrire.
Voilà, tout à fait, avec plein de soufflets, avec le principe de renverser l'image droite, gauche et haut, bas, ce qui me mettait un petit peu en distance par rapport au sujet, et puis en plus j'étais concentrée sur le faire. Donc quelque part, j'oubliais l'émotion. Ça me permettait en fait d'avoir un... On a parlé d'un filtre entre moi et ce que je voyais. Et d'autre part, ça la photographie me met dans un état de contemplation. C'est-à-dire que j'entends des choses, des sons que je n'entendrais pas sinon. Donc, y avait cet aspect-là. Et l'autre aspect, c'est que mon matériel était très très lourd. Et donc ça me permettait jamais de partir, en tout cas, de désirer m'envoler. Parce qu'en fait, c'est très facile de quitter les lieux dans des lieux qui sont si profanés, on va le dire, hein, pour Auschwitz. Et donc là, il fallait vraiment que je reste... J'avais l'impression, quand je me déplaçais dans Auschwitz avec mon pied sur l'épaule, vraiment de faire entre guillemets, hein, mon chemin de croix.
Delphine Horwiller, vous avez donc décidé de soutenir ce projet en faisant, on pourrait dire, le thème central du numéro spécial de TNOA. Pourquoi ?
Je crois qu'en entendant Ethel, il est assez simple de comprendre à quel point on peut être touché par sa démarche. Moi, j'ai un jour rencontré Ethel qui est arrivée dans mon bureau avec ses carnets, avec ses photos. Et effectivement, il y a d'abord eu l'émotion de la rencontre avec sa photographie. Et puis d'entendre sa démarche, les chemins par lesquels elle était passée. Je crois que la problématique que Ethel pose, en réalité, est une problématique évidemment religieuse au sens premier du terme, c'est-à-dire une problématique de lien avec l'autre, de comment se construit ou se reconstruit un lien qui n'a pas pu exister avec ce grand-père qu'elle a appris à connaître, et elle réhabilite une histoire qu'elle réinscrit dans la vie par-delà la mort. Et puis il y a une autre problématique à résonance religieuse extrêmement forte, c'est la problématique de la ritualisation. En réalité, ce qu'a fait Ethel, c'est une entreprise de ritualisation, puisque à date exacte, elle a marqué les temps, les moments de transition. Et si le judaïsme insiste sur quelque chose au cœur de ses rituels, c'est bien sur cela, sur la nécessité de marquer les temps qui passent, de marquer les dates anniversaires.
C'est un rite un peu particulier dans le sens où il est subjectif, elle est seule, enfin sauf pour la commémoration rue du Buisson-Saint-Louis où vous aviez convié des amis.
Oui, c'est ça.
Et comment il se trouve que nous vous invitons aussi à l'occasion de Yom HaShoah, est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Parce qu'il s'agit là d'une commémoration collective.
C'est une commémoration collective qui a lieu au mémorial. Le MJLF avait été à l'origine de cette manifestation, de cette commémoration. On a été rejoints par bien des partenaires et nous serons cette année, comme tous les ans maintenant, au mémorial de la Shoah pour lire pendant 24 heures, énoncer les noms des déportés juifs de France. En réalité, nous ne pouvons lire que la moitié de ces noms. Ces noms qui sont lus un par un par des enfants, des adultes, des descendants, des gens qui viennent tout simplement énoncer, lire un nom, parfois un âge, de façon ininterrompue, y compris au milieu de la nuit. Et j'invite bien sûr tous ceux qui n'ont jamais pu être à nos côtés à venir nous rejoindre pour ce moment d'une très forte émotion et d'un très grand recueillement au mémorial.
Donc ça sera dimanche prochain, ça commence à 19h30, et c'est une lecture ininterrompue
jusqu'au lendemain soir.
Lundi, 18h.
Jusqu'à 18h, voilà, le lendemain soir.
Donc au mémorial de la Shoah, dans le 4e à Paris. Et en quoi ce rituel, puisqu'on parlait, on va dire, subjectif ou privé, pour vous, entre en résonance avec
Je crois qu'on est dans un temps où de nouveaux rituels se mettent en place. On le voit dans différentes synagogues, dans des centres communautaires également. Au sein de ma synagogue, par exemple, en plus de la lecture des déportés au jour de Yom HaShoah, il y a une lecture du livre de la Shoah qui a été écrit, édité par Pierre Ayat, qui est une forme de ritualisation collective également. On lit des poèmes, on chante des chansons, on raconte une histoire un petit peu à la manière d'une Haggadah de Pessah autour de la Shoah et de son souvenir. Et je crois que l'initiative de Ethel fait écho à cela, mais dans son histoire personnelle. Et on assiste à un temps où une nouvelle génération est en train de ritualiser son rapport à l'histoire, qu'il s'agisse de l'histoire personnelle de sa famille.
Vous leur donnez la parole d'ailleurs dans ce numéro, puisqu'il y a par exemple un entretien avec Yvan Jablonka.
Alors Yvan Jablonka a écrit un livre magnifique, L'histoire des grands-parents que je n'ai pas connu, où il parle justement de sa démarche. Il y a eu bien d'autres œuvres écrites ces dernières années. Je suis sûre que
Vous avez en tête
Daniel Mendelsohn
et beaucoup d'autres.
6 parmi 6 millions.
Voilà, que ce soit des gens de la troisième ou de la deuxième génération. En réalité, Ethel, par exemple, appartient à la fois à la deuxième et à la troisième génération. On est à cheval entre plusieurs générations, mais il y a un processus commun qui est une réappropriation de son histoire et un dialogue engagé par-delà le silence, dans des démarches qui sont pour certains des démarches vraiment historiques de recherche ou scientifiques, et pour d'autres des démarches éminemment subjectives, artistiques, philosophiques. Et je trouve qu'on est dans un temps où le relais est en train d'être passé, où certes les témoins disparaissent, mais il y a une nouvelle relation qui est engagée avec les disparus, à travers la voix de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qui partent à la recherche de ces inconnus à qui ils sont soudain capables de dire « tu ». Et c'est exactement le sens de cette démarche qu'on a illustrée dans tes noix, à travers de ce numéro, à la rencontre de Papy Sroule. C'est ainsi que Ethel définit sa recherche. Donc on est en train de parler de quelqu'un à la deuxième personne du singulier. Elle s'adresse à lui. C'est une démarche qu'on a souhaité mettre en lumière.
Alors vous avez, autour des planches que vous avez reproduites, vous avez donné la parole à un certain nombre de...
Oui, dans Tes Noix, on est très attaché à cette structure qui en réalité une structure talmudique, l'idée qu'il y a un texte central et que dans les marges s'écrivent des commentaires. C'est une structure qu'on conserve dans la plupart des numéros Tes Noix. Et dans ce numéro, la structure centrale, l'élément central, c'est bien sûr la démarche de Ethel Buisson. Et tout autour, on a demandé à des commentateurs de venir livrer un témoignage en miroir au travail d'Ethel. Alors notamment, il y a une participation importante de notre grand témoin, Serge Klarsfeld, également Elie Wiesel, Boris Cyrulnik, Yvan Jablonka, Annette Wieworka, Brigitte Sion, beaucoup, beaucoup de spécialistes, d'universitaires, d'historiens, d'écrivains, d'artistes sont venus commenter à leur manière soit le travail, soit la thématique qui est abordée par le travail de Ethel Buisson. Parce que parmi ces thématiques, bien entendu, que nous avons retenues, il y a la question du voyage initiatique. Pourquoi se rendre sur les lieux? À quoi servent ces lieux de mémoire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un support matériel pour cette mémoire? Ou encore, comment ritualiser le souvenir? Comment ritualiser le souvenir et commémorer lorsqu'on n'a pas de corps, lorsqu'il n'y a pas de sépulture? Ou encore se poser la question de la fidélité de la mémoire. Ethel l'aborde très bien dans ses petits carnets à travers ses photos, lorsqu'elle demande à sa mère ou à sa grand-mère de porter un témoignage sur le Veldiv ou sur un autre événement historique qu'elles ont vécu, eh bien leur témoignage n'est pas nécessairement exactement le même. Et c'est intéressant de se poser la question de la fidélité de la mémoire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on se souvient de quelque chose, eh bien le témoignage des uns n'est pas nécessairement le témoignage des autres. Et Boris Cyrulnik aborde brillamment, bien entendu, cette question où il nous explique dans ce numéro de Tes Noix que, en réalité, la preuve qu'un événement est réel, c'est que le témoignage des uns n'est pas exactement le témoignage des autres. Et que si deux témoignages étaient absolument concordants, eh bien on serait dans le domaine de la fiction. La réalité, c'est une perception subjective et donc nécessairement différente de celle de l'autre. Donc voilà quelques thématiques parmi toutes celles que nous abordons. Et ce numéro de Tes Noix est véritablement construit à la manière des petits carnets d'Ethel Buisson. On a conservé exactement la structure du petit carnet. Et systématiquement, chaque double page est commentée par des spécialistes, par des voix autres qui viennent enrichir le travail d'Ethel dans les marges.
Ethel, je voudrais vous poser une dernière question. Vous avez poussé assez loin l'identification à votre grand-père, puisque non seulement vous avez mis vos pas dans les siens, c'est pas une métaphore, hein, c'est littéral, mais vous vous êtes fait photographier à Varsovie le 23 septembre 2013 à 18h20, lorsque votre âge correspondait exactement à celui de votre grand-père, au moment de sa mort, c'est-à-dire 44 ans et 11 mois pile. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin dans l'identification? Est-ce que c'est pas dangereux? Ou bien au contraire, est-ce que finalement c'est une manière conséquente de le réhabiliter, de l'accompagner jusqu'au bout?
C'est une question difficile. En fait, il fallait absolument que je lui trouve une forme, donc j'ai choisi celle-là. Et j'ai été photographiée par Mikolaj Greenberg, qui a fait lui-même un travail sur la Shoah, en passant quasiment un an à Auschwitz. Donc je voulais à tout prix que ce soit lui qui me photographie et enterre la terre initiale de mon grand-père. C'est là aussi également où j'étais allée voir la tombe de mon arrière-grand-père. Donc en fait la seule dont je pouvais identifier à la fois l'endroit et le sol qui avait un nom sur une tombe. Alors, aller plus très loin, je ne sais pas, parce que en fait, tout le travail, c'était de donner des pieds à ce grand-père. Et alors, je cherchais ses pieds, et avec un peu de malice d'ailleurs, je me disais, mais quelles chaussures a-t-il porté ? Un jour, je suis tombée sur la deuxième photo que je connais de lui, où il a des chaussures extraordinaires, blanches et avec des marques, enfin des chaussures un peu à l'italienne. Et donc, en fait, je trouvais ça presque adorable. Donc, les pieds, c'était pour moi une façon de fouler le sol. Aller trop loin, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que j'ai fait. Je suis bien rentrée avec le sourire. Et c'était aussi pour parler de ce passage avant, après. C'était pour parler de cet instant photographique, l'instant de la mort. C'était aussi pour parler de maintenant je suis plus âgée que lui aussi. Donc c'était j'ai un peu plus que son âge. C'était pour parler de la vie.
Merci Estelle Buisson. Merci Delphine Horviller. Je rappelle que donc dimanche prochain aura lieu à partir de 19h30 la lecture des noms des déportés juifs de France sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, organisée par le Mémorial de la Shoah avec le mouvement juif libéral, l'Association des fils et filles des déportés juifs de France et le Consistoire. Quant à nous, nous nous retrouvons dimanche prochain. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net.